Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio communautaire francophone de Toronto. Mon nom est Guillaume Laurent, je suis le directeur général et vous êtes dans l'émission Plus proche de vous, un projet qui consiste en la création de 50 émissions en format audio et vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page YouTube. Des émissions qui mettent à l'honneur des personnalités francophones locales de poids, avec des interviews portraits dont la subtilité, c'est que nous demandons à nos invités de venir avec une sélection musicale francophone, évidemment, pour présenter leur parcours à travers justement ces sélections qui ont pu influencer, qui ont pu avoir un poids sur leur parcours. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire pour inviter Aline Ayoub, consultante en ressources humaines pour petites et moyennes entreprises dans la région de Toronto, bien connue de la communauté francophone et fidèle de Choc FM depuis plusieurs années. Aline, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment vas-tu?
Ça va très bien, Guillaume. Effectivement, je me souviens de t'avoir rencontré au tout début de la formation de la radio. Puis effectivement, la vie fait que on ne s'est plus tellement revus depuis, mais ça me fait énormément de plaisir d'être là aujourd'hui.
Eh bien, un plaisir partagé, Aline. On se connaît un petit peu, mais je vais être heureux de revenir en arrière avec toi sur ton parcours pour en savoir davantage justement sur ce qui a amené à ton parcours professionnel aujourd'hui, à ton cheminement. Je sais d'ores et déjà qu'on peut l'annoncer en introduction que tu as ta société fondée il y a un petit peu plus de 10 ans, en 2011, et tu es donc consultante pour différents organismes et, comme je le disais, bien connue, bien intégrée dans la communauté francophone. Mais revenons en arrière. D'où viens-tu et où est-ce que tu as grandi?
Oh là là! Alors, voilà, je suis née au Caire, en fait. Je suis née en Égypte.
Wow! Alors, c'est super, ça va nous faire voyager, là.
Oui, effectivement, le pays des pharaons. Et puis, mes parents sont arrivés en 1967 en visite à Montréal. Et
d'accord.
Puis, c'était la guerre des six jours à l'époque au Caire. Donc, politiquement, ça n'allait pas très bien. Et puis, nous sommes francophones. On a appris l'arabe en longue seconde. Donc, Montréal a vraiment plu à mes parents. Et puis, mon père nous a laissés à Montréal avec ma mère, mon frère et ma sœur. Il est retourné au Caire pour tout liquider et finalement recommencer ici à zéro. Parce que le poste que papa occupait au Caire, c'était difficile de recréer le même poste à Montréal. Donc, il a ouvert sa propre entreprise. Et puis, avec beaucoup de travail, il est arrivé à faire vivre tous les membres de sa famille.
Une histoire d'immigration.
C'est comme ça qu'il est arrivé au Canada, oui.
C'est une histoire d'immigration comme on en croise souvent. Mais j'avoue que j'ai vu passer beaucoup d'immigrants de beaucoup de pays dans cette belle émission Plus proche de vous. Mais c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient du Caire, qui vient d'Égypte. Il y a une communauté où il y avait une communauté francophone importante en Égypte dans les années 60?
Oui, ben à l'époque, la communauté francophone était quand même assez importante. Le président que l'on avait à l'époque, Nasser, faisait que finalement, il y avait de la place pour les personnes de religion autre que musulmane, entre autres catholiques.
Oui.
Donc, il y avait une place pour parler français, il y avait une place pour se développer sur le plan spirituel. Et puis, les événements politiques ont fait que ça a renversé un petit peu la tendance où maintenant, il y a beaucoup plus d'arabe qui est parlé, autant dans les maisons que sur la rue. La prédominance au niveau de la religion est musulmane plutôt que catholique. Donc, ça a changé un petit peu la donne des relations, mais le pays reste aussi beau, aussi aussi ancien, avec tous ces points d'interrogation que nous avons autour de la construction des pyramides. C'est très difficile à comprendre comment ces pyramides ont pu être construites à l'époque. Pour moi, c'est une énigme importante.
Les égyptologues se sont arrachés les cheveux pour comprendre depuis longtemps ces prouesses architecturales. Tu as encore un petit peu de famille en Égypte? Est-ce que tu es retourné dans ce magnifique pays depuis ton installation au Canada?
Oui, je suis retournée en 1974, mais malheureusement, j'étais encore trop jeune pour apprécier le pays. C'est-à-dire qu'avec mes yeux d'enfant, je voyais vraiment le pays qui était surpeuplé, le pays qui était moins propre que ce dont j'avais l'habitude au Canada. Bref, je n'ai pas eu la chance, à cause de l'âge que j'avais, d'apprécier les différences culturelles, mais il n'en demeure pas moins que c'était une belle opportunité pour moi d'aller visiter les pyramides, de rentrer dans une pyramide. À l'époque, c'était encore permis de le faire. Oui, et de faire un tour de chameau même. Ça, c'était vraiment particulier, très spécial. Mais c'était de retourner au pays de son enfance, c'était vraiment quelque chose d'assez spécial. J'ai été retournée avec ma maman et puis on a visité mon lieu de naissance. Et puis je me souviens à l'époque, durant la guerre des six jours, on avait souvent des couvre-feux. Et puis pendant que je faisais le marché avec maman, ben il y avait des couvre-feux, puis on devait aller se cacher dans des abris et tout ça. Donc ça a tout fait remonter à la surface ces souvenirs qu'on veut parfois oublier. Mais c'était une belle visite. Puis on en a profité aussi pour aller au Liban, parce que tu me demandais tout à l'heure si j'avais de la famille. J'ai encore une cousine, en fait, qui vit entre le Liban et le Caire. Mais autrement, j'ai un petit peu de famille en Syrie, mais la plupart de la famille Ayoub, il y en a qui vivent en Australie, d'autres qui vivent au Brésil. Il y en a beaucoup au Canada. Mais nous sommes assez dispersés à travers les continents, disons.
Une famille internationale, c'est souvent
Voilà,
le cas, les familles
voilà. Ce qui est très
immigrants.
pratique, hein, quand on fait des voyages.
Oui, ça fait des points de chute.
Voilà,
des pays à découvrir.
Exact. Ça fait des points de chute intéressants. Puis moi, j'adore, quand je voyage, de demeurer avec les personnes de l'endroit, parce que ça nous donne plus l'opportunité, finalement, d'apprécier le pays, d'apprécier la culture et de voir comment les gens vivent vraiment.
Mais absolument. Alors, Aline, si je m'en réfère aux petites recherches que j'ai effectuées avant de te parler,
oui.
Tu es diplômée de l'Université de Montréal, donc j'en déduis que tu es restée ton enfance, ton adolescence et le début de ton âge adulte à Montréal, c'est bien ça?
Oui, effectivement. En fait, je suis diplômée en sciences politiques avec une majeure en relations industrielles. Donc, dès lors, j'avais un intérêt marqué pour les relations industrielles et tout ce qui s'apparentait aux ressources humaines. Ensuite, je suis allée me chercher un certificat en relations publiques et puis j'ai commencé ma carrière, en fait, avec la compagnie de la baie du Thon. J'étais au recrutement en ressources humaines. Je suis restée 25 ans avec la compagnie de la baie du Thon. C'était l'époque où les employeurs...
Historique canadienne.
Voilà. C'était l'époque où les employeurs restaient longtemps avec la même entreprise. En fait, les employés, pardon. Ça a changé maintenant, puis on aura l'occasion d'en parler, je suis sûre.
Absolument, mais oui, ça fait partie des questions que j'ai pour toi et on va essayer d'observer et de tirer des conclusions sur l'évolution justement du marché de l'emploi, de l'employabilité. Mais sans trop aller, sans trop dévoiler la suite de ton parcours, je vais te demander quelles étaient, lorsque tu faisais tes études à l'Université de Montréal, donc baccalauréat en sciences politiques, certificat en relations publiques, quel était ton rêve de carrière, quelle était la carrière que tu imaginais mener à l'époque?
Oui, ben pour tout dire, Guillaume, c'était le journalisme.
Vraiment?
Oui.
Un beau métier.
Et puis la vie a fait que ça s'est pas fait. Donc j'ai bifurqué vers les ressources humaines parce que les ressources humaines c'était finalement l'autre option qui venait juste après pour toutes sortes de considérations. J'ai pas pu exercer la profession de journaliste. Je trouve ça intéressant que tu m'en parles parce que lorsque j'ai commencé en ressources humaines, c'était vraiment au niveau des entrevues et des embauches.
Oui.
Et puis finalement, c'est quoi une entrevue? C'est de poser des questions. C'est un petit peu de faire ce que l'on fait aujourd'hui. aujourd'hui ensemble. Et puis, c'est loin d'être du journalisme, mais il n'en demeure pas moins que c'est d'aller chercher de l'information chez l'autre, c'est d'en savoir davantage chez l'autre. Et puis, d'une certaine façon, le monde journalistique m'intéressait parce que je suis très intéressée par la politique internationale et nationale d'une façon générale.
Oui.
Mais aussi, j'ai un grand intérêt qui est porté vers l'autre. Puis cette autre personne peut être définie comme on veut la définir aujourd'hui. Mais c'est un goût, le goût de l'autre, le goût d'être entouré de personnes différentes, de personnes qui cherchent soit à s'améliorer ou à recommencer ou quoi que ce soit. Ça a toujours été présent à l'intérieur de moi.
L'humain au centre des ressources humaines, ça fait sens.
Tout à fait, tout à fait.
On va marquer une première pause musicale, si tu le veux bien, Aline, avec ta première sélection. L'Amérique pleure, c'est les géniaux Cowboys Fringants que tu as sélectionnés pour nous. Peut-être peux-tu nous expliquer en un mot pourquoi avoir choisi ce titre?
Oui, ben, j'ai envie de dire, malheureusement, la société dans laquelle on vit présentement, il y a beaucoup d'opportunités, appelons-les comme ça. Et puis, je trouve que cette chanson souligne bien les moments que l'on vit en ce moment.
L'Amérique pleure, les Cowboys Fringants, quelques notes sur les ondes de choc tout de suite.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j'suis à Montmagny. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que j'me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée sur emballée, yeah.
Voilà, Aline, merci pour ce premier choix musical. On est donc en Amérique, à Montréal, à la fin de tes études. Quels sont les souvenirs que tu gardes de la ville de Montréal et du Québec en général?
Excellent souvenir. Pour moi, le français, ça a toujours été quelque chose de très important. On va parler de mon transfert à Toronto, mais même vivant à Toronto, en Ontario, je continue à parler français à la maison, à écouter la télévision en français. Mes amis d'enfance, finalement, sont à Montréal. Et puis, Montréal, pour moi, occupe une place assez particulière dans mon cœur. Toronto, c'est vraiment mon endroit professionnel dans lequel je me suis épanouie sur le plan professionnel. C'est sûr qu'au niveau culturel, c'est très, très, très différent. Je vais juste te raconter une anecdote en passant. Lorsqu'on m'a présenté à mon nouveau patron suite à mon transfert à Toronto, je l'ai embrassé sur la joue, comme on fait à Montréal, pour me dire après de ne plus jamais faire ça.
Là, ça se fait différences pas à Toronto, oui,
embrasser
oui,
son patron. Alors, tu sais, c'est ironique, mais je me sers souvent de cet exemple quand je donne des formations à des immigrants, parce que je leur dis souvent, même un transfert entre provinces, il faut s'adapter aux cultures de la province. Alors, imaginez-vous un transfert d'un continent à l'autre, comment ça peut être quelque chose d'assez difficile à vivre.
C'est certain, j'imagine qu'avec l'immigration importante que l'on connaît, dans la région de Toronto, évidemment, tu dois avoir du travail pour présenter les bonnes manières de se comporter pour des futurs employés, que ce soit dans leur quête d'emploi, dans leur rédaction de résumé, de lettres de motivation, évidemment, dans la manière de se comporter au quotidien dans l'entreprise. Il y a beaucoup de subtilités, de variantes, même si on peut penser que le monde s'uniformise un petit peu culturellement. Je pense que c'est encore loin d'être le cas. cas, et c'est dans les détails que, on dit souvent, le diable se niche dans les détails.
Ouais.
C'est dans les détails que les différences se retrouvent. Là, l'exemple que tu viens de donner est tout à fait parlant de ce point de vue-là. Sans anticiper trop, est-ce que tu veux aller vers Toronto, justement? À quel moment de ta carrière est-ce que tu es parti, tu es allé à Toronto pour raison professionnelle, justement?
Exactement. J'étais responsable du siège social de Zellers à Montréal. Et puis, ils ont décidé d'amalgamer les deux sièges sociaux à Toronto. Donc, je suis arrivée à Toronto en 1982.
D'accord.
Et puis, j'ai travaillé pour l'abbé, toujours dans le domaine des ressources humaines, l'abbé d'Hudson. Ensuite, je suis allée du côté de Walmart. J'étais en charge à l'époque des pharmacies à travers le Canada. Donc, c'était une expérience vraiment très, très enrichissante parce que c'était un nouveau poste. J'avais la responsabilité finalement de faire découvrir la culture du domaine pharmaceutique aux directeurs de magasins qui ne comprenaient pas, entre autres choses, pourquoi leur salaire était inférieur à celui d'un pharmacien. Donc, il y avait beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là. Après Loblaws, je me suis retrouvée chez Sears, toujours dans le domaine des ressources humaines, mais avec un portfolio vraiment différent. Alors, j'avais à l'époque la mode, les finances, le marketing. Et puis, Guillaume, quand je me suis rendu compte que courir, c'était pas assez rapide encore pour faire tout ce que je devais faire, ben, j'ai décidé d'abandonner le milieu corporatif et de me lancer en affaires, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, au mois de novembre 2011, au grand déplaisir de la famille et
Oui,
comment tu peux laisser un poste permanent pour t'en aller à ton compte, etc.
on s'en va
Alors,
toujours
aux
un peu vers
auditeurs,
l'inconnu dans ces cas-là. C'est l'inconnu qui domine et peut-être
ben,
que,
c'est ça,
effectivement, pour
c'est
quelqu'un
ça.
qui a fait une carrière corporative, c'est une prise de risque, il faut bien le dire.
Absolument, absolument, un gros risque. Puis les gens me demandaient, est-ce que tu te rends compte dans quoi tu t'engages? Puis la réponse était non, parce que je le savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'il était temps que je fasse autre chose. Il était temps que les connaissances que j'ai acquises tout le long de ma carrière servent à d'autres milieux, d'autres types de clientèle. Et puis effectivement, je travaille avec plusieurs organismes. Des OBNL et des organismes privés francophones qui sont dans le milieu de l'immigration. Donc, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup d'immigrants dans leur quête d'emploi, mais aussi je les ai aidés, oui, je les aide encore à l'intégration de la culture canadienne. On entend souvent le gouvernement nous parler de, il faut parler français quand on est particulièrement au Québec, mais encore faut-il parler français ou anglais dans la langue, dans la culture de la langue. Puis ça fait partie de ma formation lorsque je forme des immigrants francophones à Toronto, c'est que il faut être capable de comprendre la façon dont les personnes s'expriment, de façon à s'exprimer plus ou moins de la même façon. Puis on compare souvent un livre écrit en français par rapport à un livre écrit en anglais. Et puis le livre qui est écrit en français est toujours beaucoup plus gros que celui qui est écrit en anglais. Ben il y a une raison à ça, c'est que la langue anglaise est beaucoup plus focalisée, ça prend moins de mots pour exprimer une même idée, alors qu'en français, ben, on a tendance à développer
Délayer un petit peu,
davantage.
absolument, ouais. C'est ça, c'est intéressant, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être presque deux visions du monde, c'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de culture, effectivement, et même au-delà d'appréhension de notre environnement qui vient avec justement la langue et les racines culturelles d'où l'on vient.
Oui, exactement. Puis je le dis également aux auditeurs immigrants, peut-être qui sont à l'écoute, que l'expérience canadienne, elle se trouve partout. Elle se trouve quand on attend l'autobus, quand on attend le métro, quand on prend un taxi, quand on est dans un Tim Hortons ou ailleurs pour se commander un café. C'est tellement important d'être à l'écoute de tous ces indices finalement qui nous donnent le pouls de la culture pour être capable de l'épouser, puis de sans nécessairement faire abnégation de notre propre culture, mais c'est très important important pour les immigrants de démontrer qu'ils font partie du groupe, qu'on appelle ça la tribu en anglais. Et puis, de cette façon-là, je veux dire, quand le pays d'accueil sent que l'immigrant fait partie du groupe et puis qu'il est capable de décoder les signes et finalement de les comprendre et d'en faire sienne, ouais. À ce moment-là, ben, ça facilite beaucoup l'intégration des migrants dans le nouveau pays qu'il a choisi.
On va parler aussi d'intégration, évidemment, dans quelques instants. Et pour marquer une nouvelle pause après cette transition professionnelle importante que l'on vient d'évoquer pour ton parcours, Aline Ayoub, et la création de ton entreprise à ton compte au début des années 2010. On marque une autre pause avec Indochine que tu as sélectionné pour nous et le titre College Boy. Quelques mots sur ce titre?
Oui, absolument. Ben ça va un petit peu avec les changements dans la société que l'on vit en ce moment. C'est que les humains ont besoin de décoder le genre, le transgenre, de décoder toutes ces nouveautés qui n'ont jamais vraiment été des nouveautés au cours de l'histoire, mais dont on parle davantage aujourd'hui, pour finalement être dans une chaise d'acceptation. Puis pour ceux qui connaissent un petit peu la chanson College Boy, c'est traite d'une personne qui est homosexuelle, qui se fait tabasser par ses copains à cause du fait que finalement il ne soit pas un hétérosexuel. Puis je trouve ça tout à fait dommage. Je déplore ça dans la société. Je suis pour l'accueil, pour l'acceptation, pour la compréhension de tout ce qui est différent, parce que ça fait partie de l'évolution de la société. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
Merci pour ce choix. Tout de suite, quelques notes d'Indochine, College Boy sur Choc.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille pour ces gens. I want to see you.
On poursuit avec le portrait d'Aline Ayoub dans Plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1. Aline, quand tu as fondé ta société, alors on va donner peut-être tout de suite les ressources pour te rejoindre. Aline Ayoub est consultante en ressources humaines pour petites et moyennes entreprises à Toronto et dans la région. Vous pouvez retrouver à ayoubhr.com. On mettra tous les détails sur les liens YouTube et chocfm.com. Et on peut te contacter au 416-540-9296 pour des consultations. Tu le disais, l'intention était à la fois de peut-être faire une pause, marquer un temps d'arrêt par rapport au monde corporatif et aussi te tourner davantage vers des organismes de taille plus réduite. Pourquoi pourquoi ce choix?
Voilà, parce que les organismes de taille plus réduite n'ont pas de l'aide au niveau des ressources humaines. Les gros organismes, les grosses boîtes ont leur département. Donc, ils ont des gens pour les aider dans la gestion des personnes. Puis, lorsque les PME débutent sur le marché du travail, elles seront plus portées à embaucher un avocat, embaucher un fiscaliste. Puis ils ont l'impression qu'ils peuvent eux-mêmes s'occuper des ressources humaines. Jusqu'à temps qu'il y ait un problème, puis à ce moment-là, c'est quand ils ont un problème qu'ils pensent à nous appeler pour qu'on puisse les aider à solutionner le problème. Alors moi, ce que je dis, c'est que appelez-nous avant que vous ayez besoin de nous, finalement. Puis les petites entreprises n'ont pas nécessairement un besoin permanent de ressources humaines, mais c'est vraiment très pointu comme besoin. Ils peuvent avoir des projets qu'ils voudraient développer, que ce soit des manuels d'employés, que ce soit des programmes de développement ou encore des programmes d'évaluation de rendement. Puis une fois qu'on leur fournit la base, à ce moment-là, ils peuvent se servir de ces documents-là pour mieux gérer leur personnel. Puis ce qui est très important aujourd'hui, c'est finalement la gestion du personnel passe aussi par la retention du personnel, la fidélisation du personnel.
Et c'est particulièrement vrai dans le milieu associatif où les salaires sont malheureusement souvent inférieurs et en plus, a fortiori plus vrai encore dans la francophonie en milieu minoritaire où les
talents sont absolument. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'aide mes clients à finalement publiciser non seulement l'argent qui est payé pour le travail rendu, mais aussi à quel type de culture ils appartiennent, quelle est leur mission, quelles sont leurs valeurs, est-ce qu'ils offrent du travail flexible à leurs employés, est-ce qu'ils offrent une certaine formation, est-ce qu'ils offrent du travail hybride à leurs employés. Il y a tellement d'autres choses qui sont offerts par les petits employeurs, mais ces employeurs-là, malheureusement, ne pensent pas toujours les publiciser parce qu'ils focalisent beaucoup sur le salaire, mais ce sont toutes des choses qui ont de l'importance aujourd'hui sur le marché du travail, qui a naturellement énormément changé depuis la pandémie.
Alors, je suis content que tu abordes, si tu abordes la question, on va peut-être en parler un petit peu parce que j'imagine que dans les dernières années, le grand changement que tout le monde a en tête, c'est la fameuse pandémie et évidemment la flexibilité accrue, le télétravail généralisé et en quelque sorte, il y a un avant et un après, on n'est jamais vraiment revenu à la situation pré-2020 et beaucoup s'en félicitent d'ailleurs, d'autres le déplorent. Les mentalités ont changé, peut-être que les exigences également, aussi bien du côté des employeurs que des employés, a changé. Tu parlais de petites et moyennes entreprises et d'atouts possibles pour elles. La qualité de vie et l'équilibre de vie entre professionnel et familial, personnel, est quelque chose dont on parle plus aujourd'hui. On a l'impression qu'avant la pandémie, c'était presque tabou. Il fallait tout donner pour son travail et presque faire comme si le reste n'existait pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur le sujet. Est-ce que tu as le sentiment que les mentalités ont vraiment changé?
En fait, oui et non. C'est-à-dire que les employeurs qui sont ouverts à ne pas forcément retourner à la période pré-pandémique sont ceux qui vont exceller au niveau de la retention de leur personnel. Parce que, tu l'as bien expliqué, la pandémie a permis à l'être humain de réaliser qu'il y a d'autres choses à part le travail dans une vie. Pour ceux qui ont soit des vieux parents à la maison ou soit des animaux domestiques ou des enfants ou un partenaire ou une partenaire. Donc, ça a fait que l'importance tout à coup dans la vie de l'être humain, au lieu de tenir un ballon, ben l'être humain maintenant en tient plus qu'il tient une grappe de ballon. Et puis, c'est important pour l'employeur aujourd'hui qui veut évoluer avec ce que la pandémie nous a permis de faire, de comprendre que chaque employé a le droit à sa grappe de ballon, de façon à assurer un équilibre dans sa vie. Donc, pour ce faire, l'employeur doit vraiment développer la confiance dans ses employés. Et puis aujourd'hui, le rendement ou la performance n'est plus mesuré par le nombre d'heures qui est mis pour finaliser un projet, mais c'est mesuré par la qualité du projet qui a été remis. Et puis, il y a moyen pour l'employeur, en définissant les objectifs d'une façon claire et en fournissant les outils nécessaires aux employés pour réaliser ces objectifs, il y a moyen de continuer à garder contact avec ses employés en ayant une discipline au niveau de les rencontrer à toutes les semaines ou à tous les jours, ou même d'avoir une rencontre mensuelle en personne, créer un environnement de fête presque lorsqu'on se rencontre en personne avec un 5 à 7 pour inciter les personnes à venir au travail. Parce que aujourd'hui, la place occupée par l'employeur est devenue plus grande sur le marché du travail. Puis les employeurs récalcitrants justement à respecter la place de l'employé sont ceux qui malheureusement ne pourront pas survivre à ces changements. Donc, il faut profiter de cette nouvelle ère, il faut profiter de ce qui s'offre à nous présentement pour regarder vers l'avant et ne plus penser que « Ah, on va revenir à ce qu'on était avant ». Non, parce qu'on ne reviendra plus jamais à ce qu'on était avant. Tu te souviens, il y a eu un temps où les employés voulaient effectivement travailler à partir de la maison, puis l'employeur se butait à dire non, c'est impossible. Eh bien, ça a été beaucoup plus facile de fermer en période pandémique que de réouvrir. Fermer, ça a été facile pour tout le monde. On ferme. Bon. Mais pour ouvrir, on fait ça comment? Comment est-ce qu'on réembauche tous les employés dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie, par exemple? Donc, ça a mis en lumière plusieurs choses. Puis là, ben, je parle même pas de ce qui a été fait du côté de nos aînés, des difficultés qui ont été faites du côté des personnes âgées, du vocabulaire qui a été utilisé pour définir les personnes âgées. Ça a permis de mettre en lumière plusieurs défauts dans notre société, malheureusement. Ça nous a permis d'avancer aussi parce que toute chose, que ce soit une guerre ou tout problème nous permet d'avancer parce que ce sont les solutions que l'on trouve aux problèmes qui nous permettent d'avancer. Si on a une vie routinière où il n'y a rien qui se passe, ben on n'avance pas. Donc, la société a avancé. Donc, maintenant, c'est vraiment à l'employeur de s'ajuster dans ça pour reconnaître l'importance de ses employés, reconnaître leurs besoins et s'assurer que, au niveau de la rétention du personnel, cet employeur-là va tout mettre en œuvre pour retenir son personnel à l'intérieur de l'entreprise.
Ah, des questions très contemporaines, Aline. On va marquer une nouvelle pause avec Diane Dufresne et le titre « Ne tuons pas la beauté du monde ». Veux-tu m'expliquer pourquoi avoir sélectionné cette chanson?
Oui, ben c'est une chanson qui traite de l'environnement. Hein, et puis, je me rappelle très bien que quand cette chanson avait vu le jour, Diane Dufresne s'était fait énormément critiquer parce qu'elle était vraiment à l'avance de son temps lorsqu'elle a sorti cette chanson. J'ai le regret de dire que cette chanson est tellement, tellement à propos aujourd'hui. De ne pas tuer la beauté du monde passe par le soin que chacun d'entre nous va apporter à cette planète.
Ne tuons pas la beauté du monde. Quelques notes de Diane Dufresne sur Choc FM.
Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Na 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 du du va 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 va. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour.
Aline, merci pour ce choix. Est-ce que tu as le sentiment que les changements climatiques et ces questions-là ont un impact ou vont avoir un impact sur le marché de l'emploi de manière générale à court terme et ensuite à moyen terme? Est-ce qu'en tant que consultante en ressources humaines, tu entrevois la possibilité que le marché de l'emploi soit durablement transformé, bouleversé par ces changements?
Ben en fait, surtout au niveau des grandes entreprises, oui, mais au niveau de toutes les entreprises, incluant les petites, les jeunes, que ce soit la génération alpha, X ou Y, veulent travailler pour des organismes qui ont une cause. Okay? Donc, si les organismes ont une cause d'ordre environnemental, ben à ce moment-là, ils vont se sentir vraiment comme faisant partie prenante de la solution. Donc, à ce niveau-là, ce serait pour les petites entreprises. Pour les grosses entreprises, quand je pense à ce qui se passe en ce moment en Beauce ou ailleurs au Québec et en Ontario, malheureusement, il y a des problèmes de zonage avec les grandes entreprises où il y a des personnes qui vivent sur des territoires qui pensaient vraiment isolés et protégés des causes environnementales. Ouais. Mais malheureusement, il y a eu des grosses usines qui se sont venues s'installer, puis l'usine prend de plus en plus d'importance et impacte la qualité des eaux et la qualité des terres, donc directement impacte la santé des personnes qui vivent à proximité. Ce sont les grandes entreprises qui doivent faire un meilleur effort pour être capables de préserver l'environnement. Mais on le sait, Guillaume, on va pas se le cacher, c'est une question d'argent. Je veux dire, quand les entreprises amènent de l'eau au moulin, malheureusement, les gouvernements ont tendance à baisser un petit peu les bras, ouais, puis à être moins directifs face à ces entreprises. Mais nous avons encore énormément de travail à faire au niveau de changer les mentalités du gouvernement, au niveau Le gouvernement le voit que nous y sommes. Nous sommes présentement rendus au bout du rouleau. En 2023, la Terre produit moins que l'on ne consomme déjà, d'une façon générale. Mais il y a des lobbies, il y a des pouvoirs qui ont de l'argent, qui font que, malheureusement, ils viennent contrer les changements que les grosses entreprises doivent faire. Mais il n'en demeure pas moins que je me dis que faut pas se laisser influencer par ça. Parce que le changement, on peut le faire, nous, sur une base individuelle. Puis c'est chaque individu qui fait attention à la façon dont il gère ses poubelles, la façon dont il gère sa vie en général, la façon dont il se comporte pour créer le moins de diversion possible par rapport à l'environnement. On va finir par y arriver, mais ça va être long. Ça va être très, très, très long, ouais.
Ça fait plaisir d'entendre, en tout cas, un point de vue positif et encourageant sur cette question. Évidemment très contemporaine là aussi, et le pouvoir individuel que tu mets au centre de ces changements climatiques. Et pour rebondir sur cette question de pouvoir individuel, j'ai l'impression en t'écoutant, Aline, que le marché de l'emploi et ces changements post-pandémiques tels que tu les as définis tout à l'heure, c'est un marché qui semble désormais profondément tourné vers l'employé. En tout cas, c'est un changement de curseur majeur à mon sens. Moi, dans ma jeunesse, dans ma quête de premiers emplois, la crise économique faisait qu'un jeune employé, en règle générale, était content de trouver un emploi et se satisfaisait et faisait des compromis pour le garder. C'est peut-être un petit peu moins le cas désormais. Mais on a l'impression qu'effectivement, les jeunes générations sont plus sélectionnent davantage et essayent de travailler pour des causes qui leur sont chères, pour des entreprises qui ont un but social ou environnemental, ou en tout cas qui prennent en considération ces questions-là, ces questions d'empreinte carbone, etc. C'est un changement quand même très profond, ça, socialement parlant. On peut imaginer que d'ici 20, 30 ans, les mentalités auront considérablement évolué du point de vue de l'emploi.
Absolument, puis on le souhaite fortement, hein, parce que l'autre façon pour les petites entreprises de de garder leurs employés plus longtemps, c'est de créer une façon de les rémunérer lorsque les profits sont à l'honneur, c'est-à-dire de les faire participer à la distribution des profits. Parce que, je veux dire, l'employé aujourd'hui, le jeune employé, alpha, y, z, même si, comment dire, même s'il demande beaucoup, il est très éduqué. C'est ça, si tu veux, la contradiction. C'est que le jeune employé est éduqué, mais en même temps, si tu lui demandes de lire une heure sur une heure qui est affichée au mur, il saura pas comment lire l'heure qui est au mur. Tu vois? Il sait pas comment calculer. Il sait pas comment, puis quand je dis il, c'est général. Ça inclut
oui,
il, elle, yel, tout le monde. Mais bon, il sait pas comment calculer. Il sait pas comment écrire avec des lettres attachées. Donc, on assiste présentement à une contradiction énorme entre les connaissances que les jeunes peuvent acquérir à travers l'Internet et toutes sortes de modules de recherche, de modes de recherche, et le manque de connaissances pour ce qui est qualifié comme étant la base d'une éducation. Donc, je me dis que à un moment donné, il va falloir que le système d'éducation au complet soit revisité pour être capable d'adresser ces changements et de permettre aux jeunes de réussir malgré les influences externes dont ils doivent faire face en ce moment. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas eu à négocier le temps des écrans avec mes enfants.
Ouais,
c'était
ouais.
pas quelque chose qui existait lorsque je les ai élevés. Mais de nos jours, les jeunes parents, c'est une grande préoccupation, le temps d'écran accordé à leurs enfants.
C'est une bataille quotidienne.
C'est une bataille quotidienne. Puis on fait quoi? Puis comment est-ce qu'on s'ajuste à ça? Puis comment est-ce qu'on peut être conséquent quand on arrive de travailler fatigué? Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les laisse pas faire? Donc, on a besoin d'aide. La société a besoin d'aide. Puis je pense que tu l'as reconnu dans mes propos. Je suis pas je suis une personne de solution. Je ne suis pas une personne antagoniste ou quoi que ce soit. Puis je trouve que les parents, présentement, les jeunes parents, on ne doit pas leur taper dessus puis dire, ben tu vois, c'est la faute des parents. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de ne serait-ce que qu'un budget, Guillaume. Dans mon temps, moi, j'avais pas besoin de m'acheter un téléphone cellulaire, ça n'existait pas. Des take-out, de restaurants, ça n'existait pas. Alors que la jeune génération, elle est tentée par tout ça parce qu'elle est née dans tout ça. Donc, même au niveau budgétaire, les jeunes ont besoin d'aide, ont besoin de formation, ont besoin de qu'on leur montre comment se développer au lieu de tomber dans le jugement puis de tomber dans « Ah, ce sont des jeunes, ils savent pas comment ». Ben nous aussi, on a eu nos défis quand on est né. Puis est-ce qu'on a eu plus d'aide que les jeunes d'aujourd'hui? Je peux pas répondre à ça. C'était des périodes de vie qui sont complètement différentes. Mais tu sais, tu regardes dans les chansons jusqu'à maintenant que j'ai choisi, ben je suis une personne qui est avant-garde et qui aime évoluer, puis qui est à l'affût aussi de trouver des solutions à des problèmes. Puis je dénonce d'une certaine façon les injustices qui existent dans le monde en ce moment. Parce que je trouve que, malheureusement, c'est devenu beaucoup plus facile de dénoncer que de trouver des solutions concrètes.
Je savais qu'on allait aborder des enjeux de société beaucoup plus larges que les simples questions de ressources humaines à travers ton portrait, Aline. C'est tout à fait passionnant d'analyser ces grands changements et d'entrevoir ce que le futur nous réserve probablement pour le marché de l'emploi, mais aussi pour notre vie en général. On va marquer une nouvelle pause avec « Non, je n'ai rien oublié », c'est la version de Pierre Lapointe que tu as sélectionnée pour nous. Je vous propose d'écouter quelques notes et on en parle après.
Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si
si les mois, les années marquent souvent les êtres. Toi, tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. J'ai comblé, tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage.
La belle voix de Pierre Lapointe tout de suite sur les ondes de Choc FM 105.1, sélection numéro 4 de mon invité du jour dans Plus proche de vous, Aline Ayoub. Aline, pourquoi avoir sélectionné cette version de cette très belle chanson?
Ben, la version, c'est parce que j'aime beaucoup Pierre Lapointe. Je n'ai rien oublié parce que je n'ai pas oublié mon passé, je n'ai pas oublié d'où je viens, je n'ai pas oublié les changements que j'ai traversés au niveau de la société. J'en ai encore beaucoup à traverser, mais ce que je dis aussi, c'est que soyons ouverts aux changements qui sont devant nous. On n'a pas besoin, pour être ouvert, d'oublier ce qui s'est fait par le passé. Non, c'est quand on parle de que le passé est garant de l'avenir, c'est peut-être pas nécessairement le cas au niveau de la société, mais je crois que la façon dont l'individu a traversé les différentes périodes de sa vie et les réactions qu'il ou elle a eues face à ces périodes vont façonner l'individu d'aujourd'hui, qui se doit d'être flexible, qui se doit d'être ouvert, qui se doit de comprendre ce qui se passe. Parce que souvent, les personnes qui se révoltent, elles se révoltent parce qu'elles ne comprennent pas. Elles se révoltent parce qu'elles ont peur du changement. Mais si on les éduque, si on les forme en conséquence, ben il y aura plus de compréhension sur ce qui se passe dans le monde.
Alors, prendre en compte le passé et se tourner vers l'avenir, ce qui m'amène à ces questions, à ces enjeux que je voulais aborder avec toi d'avenir en ce qui concerne l'emploi, le marché du travail et l'employabilité. Quelle est ta vision des grandes transformations que l'on peut entrevoir avec la montée de l'intelligence artificielle aujourd'hui et quelles seraient les possibles conséquences pour monsieur et madame tout le monde, pour un certain nombre de secteurs d'emploi qui, on le dit, pourraient être menacés? Est-ce que tu es inquiet? Ou au contraire, est-ce que tu es plutôt optimiste quant à l'avenir et sur ces questions-là?
Ben, l'intelligence artificielle puis les réactions autour de ça, ça me rappelle un petit peu quand l'Internet est venu au monde. T'sais, on se disait à l'époque, hein, on va perdre nos emplois, comment est-ce qu'on va faire, etc. Mais on a appris à intégrer l'Internet dans nos vies. Ben, l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Je veux dire, si je prends juste l'exemple dans le domaine de l'aéronautique, par exemple, OK? Il y a des logiciels qui ont été développés pour aider les ingénieurs à prévoir les réparations qu'ils vont devoir faire pour certains avions. Donc, l'intelligence artificielle, elle existe, elle est là, même si on ne la veut pas, on n'a pas le choix, OK? Elle va nous envahir éventuellement, mais c'est de savoir comment l'intégrer dans notre travail, de savoir comment est-ce qu'elle peut venir faciliter notre vie, comment est-ce qu'elle peut venir nous aider à sauver du temps dans ce qu'on a à faire. Puis, si je pense particulièrement à ChatGPT, qui est utilisé beaucoup, moi-même, je m'en sers dans mon domaine, ben c'est mon expérience qui valide ce que je lis et qui est capable de lire entre les lignes. Il faut pas se fier à l'intelligence artificielle comme étant la solution, la réponse. Il faut vraiment intégrer cette façon d'apprendre et cette façon de travailler à ce que l'on fait sans pour autant croire que c'est la réponse à apporter. Donc, moi, c'est ça le danger de l'intelligence artificielle, c'est que les personnes qui s'en servent comme étant la vérité, mais c'est pas nécessairement la vérité. C'est une façon de nous mettre sur la bonne piste pour nous faire sauver du temps, pour être beaucoup plus productif, pour avoir du temps pour faire autre chose que de travailler, entre autres. Mais faut savoir la défier également. Ouais.
Est-ce que tu es confiante dans notre capacité, la capacité du système d'éducation en particulier à faire de nous, à continuer à faire de nous des experts, à continuer à faire de nous des personnes clairvoyantes qui sont capables de faire la part des choses entre l'information
Ouais, mais ça, c'est la grande
réelle, la
question.
réalité et ce qui relève peut-être de l'opinion ou ce qui relève
Ouais.
peut-être de la fabulation. On sait que ChatGPT invente des réalités alternatives plutôt que de dire non, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne va pas vers le risque d'avoir des individus qui vont affirmer des faussetés, des choses, des contre-vérités
Ouais. Mais
et affirmer
on le vit
sans que
déjà.
personne ne puisse le contredire.
Ben, c'est sûr que c'est une peur que j'ai. Puis on le vit déjà, même avant l'intelligence artificielle, avec les fausses nouvelles et tout ce qu'on peut lire qui est pas bon. Donc c'est important de vérifier la source. Mais avec ChatGPT, pour avoir une réponse qui se rapproche le plus de la vérité, il faut vraiment poser la bonne question avec tous les détails possibles dans la question. Autrement, on n'aura pas une réponse qui est juste. Parce que j'ai essayé de jouer un petit peu avec le chat GPT, puis poser des questions qui avaient comme pas d'allure, puis poser des questions beaucoup plus structurées, puis on a des réponses complètement différentes. Mais pour répondre à ta question, elle est très large. Je pense que c'est l'avenir. C'est quand je parlais de formation tout à l'heure et d'éducation, je crois que l'intelligence artificielle est en train de se développer à un rythme beaucoup plus rapide que l'on voudrait, parce qu'on n'a pas le temps justement de freiner la progression pour mettre en place des balises d'éducation. Puis un des défis de notre société du futur. Si j'avais la réponse, Guillaume, à ça, ça serait génial.
Aline, c'est un plaisir de t'entendre parler, analyser la réalité qui est la nôtre. On aurait pu poursuivre, j'en suis sûr, sur ces questions encore longtemps, mais l'heure qui nous est impartie tire à sa fin. Je rappelle que tu es la présidente de la firme de conseil Aline Ayoub HR Consulting. Donc, le site internet, c'est ayoubhr.com et on peut te contacter sur différents numéros de téléphone qu'on laissera également et contacts courriels qu'on laissera également sur les liens chocfm.ca. Pour terminer, tu as sélectionné pour nous une chanson un petit peu plus rêveuse, un petit peu plus optimiste. C'est Nuit Magique avec Ariane Moffat. Quelques mots pour finir sur ce titre?
Oui, ben justement, j'ai trouvé le choix de mes chansons ultérieures un petit peu, pas négatives parce qu'elles sont réalistes, mais étant moi-même une personne excessivement positive qui croit en l'avenir, je trouve que Nuit Magique nous amène justement vers des airs, plus ensoleillés, pour réemployer un terme déjà utilisé.
Aline Ayoub, un grand merci de t'être prêtée à ce jeu du portrait pour plus proche de vous sur les ondes de Choc FM 105.1.
Ça m'a fait plaisir, Guillaume. Merci de m'avoir invité.
Ok, il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette ville étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Oh.